Chapitre 26.
Pour des raisons d'accroche, ils avaient transformé ma lettre ouverte à celui qu'on prend pour Dieu en Jésus clone démasqué par sa maîtresse. Sous-titre, un piscinier du Connecticut, victime d'une machination politico-religieuse. Le jour se levait, j'étais remonté chez moi avec le journal et la ligne de Jimmy n'était plus attribuée. J'attendais qu'il me contacte. J'espérais qu'il saurait lire entre les mots, comprendre que j'allais dans son sens. Je l'attaquais pour le défendre. Je semais le doute sur lui pour le protéger du fanatisme contre lequel il se dressait. L'un des premiers à réagir à mon papier fut un chercheur italien, Guido Ponzo. Docteur en chimie et biologie, président de l'Union rationaliste de Naples, auteur de « Jésus, l'épreuve de l'imposture », il venait de me lire sur le site web du Poste. Il délirait d'enthousiasme. Il me racontait ses propres combats, 35 ans de lutte contre l'obscurantisme religieux, l'industrie de l'idolâtrie et les prétendus miracles. Mis au banc de l'université, condamné pour destruction de reliques et ruiné par les dommages et intérêts, il m'a téléchargé tous ses articles censurés comme autant d'arguments pour que je continue à dénoncer le faux messie né d'un linceul bidon tissé au Moyen-Âge. Pour lui, il ne fait aucun doute que l'Église fabrique elle-même ses reliques dans les caves du Vatican, où des scientifiques intégristes voués à l'Opus Dei les réactualisent sans cesse grâce à des techniques de pointe pour duper les instruments d'analyse et de datation. On ne l'a jamais laissé approcher du linceul de Turin, mais il affirme avoir démontré sa théorie en analysant les autres linges de la Passion, ainsi que le morceau de barbaque vénéré dans les abruzzes. Je lui demande des précisions sur la dernière phrase. La légende qu'il me transmet en réponse me laisse perplexe. Au 8e siècle, un moine du village de Lanciano a des doutes. Tout en consacrant le pain et le vin, il n'arrive plus à croire qu'ils contiennent réellement le corps et le sang du Christ. Il demande un signe à Dieu. Alors, tout à coup, devant les fidèles qui assistent à la messe, l'hostie devient un bout de viande et le vin se transforme en sang. Depuis 13 siècles, ces matières organiques se sont conservées sur place dans un état de fraîcheur parfaite, remplacées en réalité à chaque nouvel examen par les autorités religieuses, d'après Ponzo, avec la complicité de l'hôpital voisin. Car le morceau de chair est un vrai fragment de cœur humain, myocarde et ventricule, et le sang est de groupe AB. La recherche d'ADN qu'il a effectuée sur ces échantillons en 2004 prouve à ses yeux la thèse du complot scientifico-ecclésiastique. Groupes sanguins et génotypes sont les mêmes que ceux qu'il a trouvés sur le Soudarion, ce suaire prétendument appliqué sur le visage du Christ et conservé depuis le XIe siècle dans la cathédrale d'Oviedo. Les mêmes que sur la tunique d'Argenteuil portée pendant l'ascension du Golgotha. Les mêmes que sur le voile de Manopello avec lequel sainte Véronique épongea le supplicié. Les mêmes que sur la coiffe de Cahors, la mentonnière qui servait à maintenir fermée la bouche du cadavre. Guido Ponzo m'envoie les séquences TAGC qu'il a décryptées. Aussitôt, je les compare aux empreintes génétiques sorties des archives secrètes de la Maison Blanche par le conseiller Glasner, mises en ligne depuis hier midi sur le site du pasteur Hunley. Et le résultat est sans appel. Si les chromosomes de Jimmy et ceux du linceul de Turin sont bien identiques, en revanche, ils n'ont rien à voir avec l'ADN des autres reliques. De deux choses l'une, ou les quatre linges annexes sont des faux, ou ils sont authentiques et le linceul a enveloppé un autre corps. Guido Ponzo est sidéré par ma conclusion. Pour lui, tout n'est que supercherie, mais c'est la première fois que l'Église est prise en flagrant délit de négligence sur ses contrefaçons. Si les pièces détachées de la Passion ne proviennent pas du même puzzle, alors pour lui c'est une chance inouïe de réduire à néant le linceul et son soi-disant clone. Je lui promets de le recontacter dans l'après-midi et je m'habille tout en zappant les infos de 9h où les commentateurs s'empoignent avec violence autour de mon article. Mais que peut-il contre les indices d'écoute? Au moment de l'intervention de Jimmy, la messe de Hunley a pulvérisé son record d'audience. Ce matin, sur le net, on recense de la Floride à l'Alaska 68 000 cas de miracles, du rhume interrompu au sourd qui réentend, en passant par le micro-ondes cassé qui se répare tout seul et la voiture qui démarre alors que la batterie est morte. Pour un Américain sur cinq, Jimmy guérit par la télé. Un communiqué de BNS promet le DVD de la messe pour dans 3 jours, en édition limitée. Avant même sa sortie, il est déjà collector et vaut $1000. Sur CNN, 40% des sondés le croient fils de Dieu. 30% pensent que c'est le diable qui agit à travers lui. Les autres estiment que c'est un extraterrestre ou ne se prononcent pas. Mon pays est devenu fou. Quand j'ouvre à nouveau mes mails, une heure plus tard, j'ai reçu une centaine d'insultes, de menaces et de croix dessinées sur des cercueils. Le seul message de félicitations émane du docteur Sanderson, le cloneur que j'ai mis plus bas que terre dans mon papier. Hier midi, j'avais envoyé à tout hasard une demande d'interview sur son site. Il se déclare prêt à m'accueillir chez lui, à ma convenance. Je lui réponds, je prends date pour demain, appelle mon nouveau rédacteur en chef. Il exulte. Grâce à mon papier, les ventes sont en train de doubler. Je lui demande de me garder le même espace et je file à l'aéroport de La Guardia. Par le fichier du poste, j'ai obtenu l'adresse privée du scénariste Buddy Kupperman, que Jimmy a désigné comme le chef du projet Omega, inconnu au standard de la Maison-Blanche. J'ai laissé 10 messages sur la boîte vocale du conseiller Glasner, aucune réponse. Et je veux absolument le témoignage d'un des politiques impliqués avant d'aller interviewer le cloneur. Arrivé à Los Angeles, je loue une voiture, prends une chambre d'hôtel, mets mon ordinateur en sécurité au coffre et je fonce jusqu'à la plage de Malibu. À l'adresse indiquée, la maison n'est plus qu'un squelette de poutrelles métalliques et de planches calcinées. Je finis par trouver Kupperman dans une caravane de tournage. En état de choc, soigné par une escouade de géantes siliconées, il refuse de parler aux journalistes. J'insiste pour son bien. Si les services secrets ont voulu le faire taire, il a tout intérêt à ce que le public le sache. Ça évitera qu'une récidive ne prouve la réalité des accusations que je suis prête à imprimer. Il s'obstine dans ses dénégations. Il ignore tout du projet Omega, il ne connaît pas Jimmy Wood, il n'a aucune preuve de quoi que ce soit, toutes ses archives ont brûlé, il n'a rien à dire et ce n'est pas la peine que je lui laisse mon adresse. Il ne changera pas d'avis. En prononçant ces derniers mots, il me regarde avec une telle insistance que, lorsque je remets dans mon sac ma carte de presse, je m'arrange pour laisser tomber ma réservation d'hôtel. Il allonge le bras, la ramasse et me la rend. Je rentre à l'Holiday Inn, commande un room service, allume mon ordinateur. Toujours aucun message de Jimmy. En revanche, Tom et ses avocats me bombardent d'injonctions pour que je renonce aux provocations journalistiques de nature à déclencher des violences fanatiques risquant de mettre en péril ma grossesse. Connard. Sans nouvelles de Kupperman, je rassemble les données transmises par le chimiste Guido Ponzo et je consacre mon deuxième papier à expliquer posément aux chrétiens que le sang du Christ apparu devant témoins à la place du vin de messe, à Lanciano, correspond à celui de 4 linges sacrés sur 5, mais n'a rien à voir avec l'ADN de Jimmy Wood. Je dois avouer que le fait de suggérer une imposture religieuse en utilisant comme argument des miracles donne une certaine jubilation. Pour la première fois depuis des mois, je m'endors sans somnifère. Le lendemain, à l'aube, au moment de quitter l'hôtel, je trouve à la réception une enveloppe à mon nom, contenant 100 feuilles. Pages imprimées, notes manuscrites, fiches en vrac.
Fin du 9e disque.